Très bon réveil, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Chine fête aujourd'hui les 70 ans de sa République populaire. Défilé militaire, parade, de quoi impressionner le 1,4 milliard Chinois sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, sur fond surtout de tensions avec Hong Kong. Nous rejoindrons notre correspondante à Pékin.
Puis nous irons justement à Hong Kong où les manifestants pro-démocratie ont promis de perturber l'anniversaire chinois.
Dans ce journal aussi, vous comprendrez le dilemme de la justice tunisienne. L'un des deux candidats à la présidentielle est en prison. Faut-il le libérer ? La politique doit-elle primer sur le droit ? Nous posons la question.
Et puis nous reviendrons aussi sur les risques de pollution à Rouen après l'incendie d'une usine classée Seveso. Une association contre l'amiante s'inquiète.
Enfin, hommage à Jessie Norman dans moins d'un quart d'heure. La cantatrice américaine, célèbre soprano, est décédée hier. Elle avait 74 ans. Il se dit que même les pigeons n'ont plus le droit de voler à Pékin aujourd'hui et ont été enfermés dans des cages. La capitale chinoise est cadenassée, bouclée, surveillée plus qu'habituellement pour célébrer les 70 ans de la République populaire de Chine, fondée par Mao Tse-tung le 1er octobre 1949 depuis la place Tiananmen. Et c'est là, place Tiananmen, que le 7e président chinois Xi Jinping a lancé ce matin le coup d'envoi des festivités. Bonjour Dominique André.
Bonjour Clara.
Correspondante de France Culture en Chine, vous suivez ces cérémonies, ces défilés militaires et vous nous racontez.
Les 70 ans de la République populaire, c'est d'abord cette petite fille qui chante seule au pied du monument aux morts de la nation chinoise. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ma Chine. Puis tout de suite après, 70 salves de canons célèbrent la fondation de la République de Chine, ici même place Tiananmen, il y a 70 ans par Mao Tse-tung. Devant le président Xi Jinping, héros de la journée, habillé en costume Mao sombre, la République a exhibé ses équipements dernier cri, dont certains ont défilé pour la première fois. Missiles nucléaires intercontinentaux pouvant potentiellement atteindre les États-Unis, des centaines de chars d'assaut, chars amphibies pour intervenir au large des côtes chinoises. On a vu aussi les drones à grande vitesse de l'APL qui témoigne des progrès technologiques de l'armée chinoise. Cette démonstration de force soutient un discours ferme de Xi Jinping aujourd'hui.
Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et le peuple chinois d'aller de l'avant.
Ce défilé gigantesque s'est terminé par un autre défilé civil avec plus de 100 000 figurants sous le drapeau rouge de la République populaire de Chine.
Merci beaucoup Dominique André depuis Pékin pour France Culture. Alors derrière ces images de puissance militaire, de l'autre côté de la frontière à l'est, il y a Hong Kong. Hong Kong bouclé également face aux nombreux appels à manifester contre le pouvoir de Pékin. Florence de Changy, vous y êtes pour France Culture. Quelle est l'ambiance ce matin ?
Alors à Hong Kong, c'est le contraste absolu avec Pékin. D'une part, la ville a désert de ville fantôme, comme ce n'est quasiment jamais le cas. Il y a beaucoup de magasins qui ont baissé leurs rideaux de fer. La plupart des centres commerciaux, qui normalement restent évidemment ouverts les jours fériés, ont fermé. La plupart des immeubles officiels, que ce soit le Parlement ou le Grand Commissariat de police de Wan Chai, sont entourés d'énormes barricades de protection et les rues d'accès sont barrées. En revanche, contrairement aux habitudes pour cette journée, il n'y a quasiment pas de drapeau chinois qui flotte dans la ville. Mais surtout, par anticipation de troubles, la société de métro MTR a annoncé la fermeture de nombreuses stations, alors que le métro est évidemment le principal moyen de transport des Hongkongais. Il faut dire que la police a annoncé hier une journée potentiellement très, très dangereuse. Malgré cela, depuis une heure ou deux, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de Hongkongais qui sont réunis, notamment à Causeway Bay, et malgré l'interdiction de manifester, ils ont commencé à marcher. En fait, tout le monde s'attend à des heurts violents avec la police plus tard dans la journée et sans doute dans la nuit. Mais pour le moment, les manifestations sont encore tout à fait pacifiques.
Merci beaucoup Florence de Changy à l'aube de ces manifestations donc à Hong Kong aujourd'hui. C'est le flou le plus total ce matin au Pérou. Le président y a dissous le Parlement après des soupçons de corruption. Mais ce même Parlement a riposté dans la foulée, votant la suspension du président, invoquant une incapacité morale. Camille Magnard, dans la revue de presse internationale, analysait cette crise politique et institutionnelle proche de celle du Venezuela. Revue de presse à réécouter en podcast ou sur franceculture.fr. En Tunisie, c'est peut-être aussi une crise politique qui se dessine. En tout cas, si le finaliste de la présidentielle ne sort pas de prison. Nabil Karoui doit participer au second tour de l'élection ce dimanche, mais il est emprisonné depuis la fin du mois d'août, soupçonné de blanchiment et d'évasion fiscale. Il demande à sortir pour pouvoir faire campagne. La justice pourrait rendre sa décision aujourd'hui, Maureen Mercier.
Si Nabil Karoui n'est pas libéré rapidement, ce serait tout simplement dramatique pour cette démocratie encore fragile. C'est ce qu'estime Yad Ben Achour, constitutionnaliste, l'une des figures morales les plus incontestées ici. Si les juges laissent Nabil Karoui derrière les barreaux, il ne reste que deux scénarios possibles, dont voici le moins pire. Dans deux semaines, Nabil Karoui remporte le deuxième tour.
Et dans ce cas, nous avons un problème. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sinon en le libérant. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde que quelqu'un sorte de prison pour aller au palais présidentiel.
Ce scénario entacherait l'image de la Tunisie, mais il n'est pas dramatique. Deuxième hypothèse, la plus vraisemblable pour l'heure, si Nabil Karoui ne gagne pas, là,
il a la possibilité d'intenter des recours contre les élections pour rupture de l'égalité des chances entre les candidats. Parce que le principe d'égalité en matière de compétition électorale est un principe absolu. Donc si jamais il perd les élections, il aura pour lui des voies de recours internes aussi bien que des voies de recours internationales. Il y a un risque de remise en cause des résultats des élections. La seule possibilité pour moi, c'est qu'on le libère. Ça devient un problème de survie pour la Tunisie, d'intérêt supérieur de la nation. Et je crois que les considérations juridiques doivent ici, dans ce cas très précis et d'une manière tout à fait exceptionnelle, passer après les considérations politiques.
Faire primer la politique sur le droit, situation surréaliste pour la justice tunisienne. La Cour doit trancher entre aujourd'hui et demain.
Un an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La journaliste marocaine Hajar Raissouni a été condamnée hier par le tribunal de Rabat. Idem pour son gynécologue et son fiancé. Elle va devoir remanier son équipe. La future présidente de la Commission européenne ne peut pas nommer les candidats hongrois et roumains. Les eurodéputés le refusent. Ils évoquent des conflits d'intérêts présumés. Prochaine audition à risque, celle de la Française Sylvie Goulard, proposée au marché intérieur. Elle est soupçonnée, je vous le rappelle, dans une affaire d'emploi fictif.
8h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Le gouvernement promet une indemnisation totale pour les agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leurs produits dans l'agglomération de Rouen.
Oui, et 280 fermes sont concernées en Normandie et dans les Hauts-de-France. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu à Rouen hier soir, insistant sur la transparence des autorités sur les risques de pollution après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso. Les odeurs sont gênantes, dit-il, mais pas nocives. Pourtant, les habitants s'inquiètent de maux de tête, de maux de ventre. L'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, l'Andeva, estime, elle, qu'après l'incendie de la toiture, il y a des risques de contamination à l'amiante. Son président Alain Bobbio s'en explique au micro de Florence Turm.
Lorsqu'elles sont soumises à un incendie d'une extrême violence, ces toitures explosent littéralement et dispersent dans tous les coins des petits morceaux de toiture. Ce processus-là sépare les deux composants de la toiture, c'est-à-dire d'une part les fibres cancérogènes et d'autre part le ciment. Et les fibres cancérogènes qui sont 400 fois plus fines qu'un cheveu, elles sont invisibles à l'œil nu. Ces fibres sont prises dans des courants d'air chaud ascendants, très puissants, qui les emmènent bien au-dessus du brasier. Et on a surtout dans le brasier ce qu'on appelle des cocktails chimiques. Et ces cocktails chimiques, ils ont des propriétés cancérogènes qu'on pourra constater dans 20 ou 30 ans.
Voilà pour les inquiétudes. De son côté, le groupe Lubrizol s'excuse ce matin pour les nuisances et porte plainte pour destruction involontaire par explosion ou incendie. La directrice générale du groupe France dit en effet ce matin disposer d'éléments qui laissent penser que le feu a démarré en dehors de l'entreprise. Nous y reviendrons, Guillaume, avec vos invités après
journal. Et oui, dans quelques instants, deux spécialistes des risques industriels, Myriam Mérad, elle est directrice de recherche au CNRS, et Renaud Bécaud, il est docteur en histoire de l'environnement.
Et d'ici là, nous continuons ce journal en partant à la cour d'assises spéciale de Paris où se poursuit le procès d'Inès Madani, accusée d'avoir préparé un attentat raté. C'était près de Notre-Dame de Paris en 2016 avec des bonbonnes de gaz. Elle est accusée avec une autre jeune femme, Ornella Gilligman, qui, elle, a été manipulée en se faisant passer par un homme. C'est elle qui était entendue hier.
Ornella Gilligman parle d'Abou Omar avec passion. Elle évoque leur rencontre virtuelle via l'application Periscope, leurs conversations téléphoniques qui n'en finissent pas, pendant lesquelles elle se confie très intimement, elle qui d'habitude est si pudique. Il lui déclare sa flamme, elle tombe sous le charme de cet homme qu'elle n'a jamais vu. Elle décrit son amour pour lui, sincère et intense, sa décision de divorcer, leur projet de mariage, d'enfant et de voyage. Il la complimente, elle se sent bien, elle se sent belle. Il lui demande des photos, elle lui en envoie régulièrement. Il lui demande des photos dénudées, elle finit par s'exécuter, acceptant même de poser avec de la lingerie qu'il a choisie. Ornella Gilligman est amoureuse et fascinée par cet inconnu qui se fait passer pour un combattant revenu de Syrie. Elle se marie avec lui par téléphone quelques semaines avant la tentative d'attentat. « Vous n'avez jamais eu le moindre doute sur son existence ?» lui demande le président. « Jamais, même en prison, je voulais encore y croire, » répond-elle. Et pourtant, Abou Omar n'a jamais existé. C'est une jeune femme de 19 ans qui se cachait derrière ce pseudo. Inès Madani s'est servie de cet avatar pour entraîner Ornella Gilligman à commettre un attentat avec elle. Mais encore aujourd'hui, Ornella Gilligman parle d'Abou Omar comme s'il existait. Elle évoque une forme de possession, d'obéissance totale. Comme si elle plaidait dans cette affaire une forme de folie amoureuse.
Un compte-rendu d'audience signé Antoine Marette. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a été condamné à un mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende hier pour violation du secret professionnel. La peine a été prononcée par la Cour de justice de la République, car à l'époque des faits, Jean-Jacques Urvoas était encore garde des Sceaux. Il aurait transmis au député Thierry Solaire des éléments sur l'enquête pour fraude fiscale qui le visait. Un nouveau produit d'épargne retraite est commercialisé aujourd'hui. De quoi accompagner la réforme en cours et la création d'un régime par points. Ce nouveau produit doit en effet rendre le dispositif plus lisible et plus avantageux pour inciter, Anne-Laure Jumet, pour inciter les Français à épargner encore davantage.
Les Français font partie des Européens qui épargnent le plus, juste derrière les Allemands avec 5 000 milliards d'euros placés sur des produits financiers. Mais si la retraite est l'un des motifs principaux d'épargne, les produits retraite en tant que tels sont peu plébiscités, peu lisibles et peu attractifs, la plupart ne permettant pas de récupérer en une seule fois l'ensemble de son capital. D'où la réforme lancée aujourd'hui. Les fonds versés sur ces nouveaux produits pourront être retirés à tout moment pour l'achat de sa résidence principale. Et au moment du départ à la retraite, on pourra au choix percevoir une somme versée chaque mois ou la totalité de son capital. De quoi aussi accompagner la réforme des retraites, le futur régime par points qui va faire des perdants, analyse Luc Arondel, chercheur à l'École d'économie de Paris.
Les gens sont relativement rationnels concernant leur préparation de retraite parce qu'effectivement, si les projets de réforme là, jouent sur le niveau de leur prestations, forcément qu'ils vont devoir, s'ils veulent maintenir leur niveau de vie après leur retraite, il va falloir qu'ils épargnent par eux-mêmes. Ça reflète le fait qu'on fait de plus en plus appel à l'initiative privée pour la préparation de la retraite. Mais sans pour cela arriver à des fonds de pension ou à uniquement aider un système privé. À moyen terme, je ne vois pas cette évolution-là.
Du côté des associations de consommateurs, on salue la clarification de l'offre et la sortie possible en capital. Mais on met aussi en garde contre un autre changement. Il n'y aura pas, avec ces nouveaux produits d'épargne, de rendement garanti à X%, de quoi décourager les épargnants qui ne veulent pas prendre de risques, et ils sont nombreux. Selon une récente étude, 75% des Français préfèrent ne rien gagner plutôt que de prendre le risque de perdre de l'argent.
La retraite encore et la réforme qui se prépare. Notons qu'à Paris, hier soir, les syndicats de la RATP, réseau de transport, les syndicats ont été reçus par le gouvernement pour une prise de contact, disent-ils. Elle était l'une des plus grandes figures de l'art lyrique. La cantatrice Jessie Norman est morte hier à New York à l'âge de 74 ans. Immense soprano. Elle était notamment connue en France pour son interprétation de la Marseillaise lors du bicentenaire de la Révolution en 1989. Jessie Norman, c'est aussi un destin américain, Gregory Phillips.
Comme ici au Carnegie Hall au début des années 90, Jessie Norman avait commencé par chanter du gospel dès l'âge de 4 ans dans la petite église d'Augusta, Géorgie, que fréquente alors sa famille. L'enfant est né en 1945 dans un Sud encore ségrégationniste. Ses parents militent pour les droits des Noirs et ils l'envoient étudier le chant à Washington. Elle n'a que 16 ans. Puis 7 ans plus tard, elle part pour l'Europe. Premier contrat à l'Opéra de Berlin, puis Paris, la Scala de Milan, les plus grands festivals. Il faudra attendre le début des années 80 pour que Jessie Norman revienne triompher aux États-Unis. Elle fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en 1983, dans les Troyens de Berlioz. En 85, elle, la démocrate, chante pour la seconde investiture de Ronald Reagan. Puis la cantatrice enchaîne les galas et les récompenses, le Kennedy Center, l'Honneur. Elle reçoit 4 Grammy Awards et la médaille nationale des arts des mains de Barack Obama en 2009. En 2014, la cantatrice avait publié ses mémoires « Tiens-toi droite et chante » dans lesquelles elle racontait le racisme auquel elle avait été confrontée. Une école d'art lyrique porte désormais le nom de Jessie Norman à Augusta, là où tout a commencé.
Jessie Norman, décédée donc à l'âge de 74 ans. Vous pouvez retrouver sur notre site internet l'entretien exceptionnel de Jessie Norman qu'elle avait accordé à Caroline Brouet en 2015 lors d'une grande table. C'est donc sur franceculture.fr. Et puis à 8h50 tout à l'heure, Mathilde Serrel dans sa chronique reviendra évidemment sur la carrière de Jessie Norman. Quelques mots avant cela de la météo et les pluies parfois orageuses vont traverser le pays ce mardi. Température plutôt homogène ce matin avec 17 degrés au nord de la Loire et 19 à 22 au sud, Guillaume.
8h16 sur France Culture. Merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal.